toute la nuit.
Réécoutez vos émissions préférées sur Radio Lac.
Alors Fabien, ça va ou bien ça va bien?
Ce matin, je voulais vous parler de ceux qui ponctuent toutes nos journées au rythme des notifications, les SMS, les messages WhatsApp dont on ne peut plus se passer véritablement. Une invention géniale qui nous permet de rester connectés 24 heures sur 24 avec nos proches, pour le meilleur et surtout pour le pire et pour l'agacement. Pire, oui, on est d'accord, parce que les messages WhatsApp et les SMS, ça peut être bien pratique. La plupart du temps, ça vient quand même un petit peu nous gâcher la vie.
Clairement, il y a un truc très très simple qui existe, ça s'appelle archivage.
Oui.
Vous les archivez, vous les voyez pas.
J'ai fait ça pendant un mois avec tous les groupes de la radio.
C'est pas mal.
Ça fonctionne bien, visiblement. Il y a le roi du vu mais pas répondu, vous le connaissez celui-ci.
Ah bah oui,
tu sais, ce message que t'as envoyé à 9h03 et toujours pas de réponse à 21h47. Toi t'es là en mode PLS à te demander si t'as dit un truc de grave ou si la personne a été, pourquoi pas, kidnappée. Voilà, c'est juste que la personne n'avait pas envie de te répondre.
C'est ça.
Tu sais, vu mais pas répondu. Oui.
C'est souvent l'excuse. Hein.
C'est la même personne qui, à l'époque, sur MSN, se connectait que 15 minutes toutes les 3 semaines.
C'est vrai.
Allez là, vite, allez, parti.
Il y a celles et ceux aussi qui écrivent juste « ok ». Tu sais, le « ok » sans smiley, sans rien, pas de ponctuation, juste « ok ». Oui, mais « ok » comment? Moi, je veux savoir. « Ok, t'es content ? Ok, tu me détestes ? Ok, t'as envie de m'enterrer vivant ? Donne-moi un indice, une intonation, un emoji, un pigeon voyageur, quelque chose. Mais pas juste « ok ». Moi, ça me crispe un peu, tu vois, cette réponse, le juste « ok ».
C'est froid.
Il y a les messages à rallonge aussi. On les connaît, ceux-là, les messages à rallonge. Vous avez tous quelqu'un dans votre entourage qui vous envoie un fameux pavé de 38 lignes en 10 messages. Parce que
tu
es un peu la spécialiste des pavasses, toi.
C'est
des
vrai.
Gros pavés de messages.
Ou des notes vocales.
Et puis si tu as le malheur de rater ça parce que tu es en train de faire autre chose et que tu as des dizaines de notifications sur ton téléphone, voilà. Et puis il y a toujours à la fin de ces messages à rallonge, il y a toujours le petit « voilà, maintenant tu sais ». C'est vrai.
Comme
voilà,
ça,
c'est dit.
Comme ça, Théo Parfum, je t'ai mis au courant.
Exactement.
Voilà.
On n'oublie pas les réponses passives, agressives, du genre bon, c'est comme tu veux. Il faut faire gaffe. Hein. Le comme tu veux, c'est pas un comme tu veux, genre t'as le choix. Non, non, c'est une invitation à un vrai conflit, tu vois.
Non, ça dépend. Moi, j'aime bien lire des fois c'est comme tu veux. Je dis très bien, c'est comme je veux. Voilà. Non, mais c'est vrai.
Ok, bah écoute.
Voilà,
et puis, il y a les fameux groupes WhatsApp. Alors, ça peut être au boulot, comme tu le disais, Sébastien. Ça peut être aussi les groupes de famille où tout le monde répond merci à Tata pour une photo floue d'un pot-au-feu. 48 notifications sur le groupe de la famille pour une carotte trempée. Et toi, t'oses pas quitter le groupe parce qu'après tout, c'est ta famille. Donc, il y a le mode archivage qui fonctionne.
Le mode archivage qui fonctionne très, très bien, qui peut vexer un petit peu. Parce que le problème, c'est que du coup, tu vois rien. Donc, tu ne consultes rien.
Tu vois qu'il y a un petit message dans le groupe, mais tu ne sais pas dans lequel. Tu en as archivé plusieurs.
C'est ça.
Voilà.
Ouais.
Ça sent le vécu.
Ah oui.
Et puis enfin, terminons avec le GIF, hein, l'arme de destruction massive. T'écris un message profond, sincère, avec des mots qui viennent du cœur. T'as passé du temps à rédiger ton message. Et puis là, la personne te répond simplement avec un GIF, tu vois, avec un chat qui danse sur du Beyoncé, par exemple. Et là, tu t'es dit, bah, ça valait bien le coup de me casser la tête.
Il y a des GIFs très drôles. Hein.
Voilà.
C'est un art de trouver le bon GIF.
Ah oui, il y a des GIFs très très drôles.
Le meilleur de Lac en replay
sur radiolac.ch. Give it.
L'étude du jour, le stéthoscope avec toi Carole ce matin.
On va parler des femmes, 80% des femmes malheureusement prennent du poids à partir de 42 ans et jusqu'à 50 ans, la ménopause.
Ah la ménopause.
Ménopause ou pré-ménopause, malheureusement mesdames, hein, on y passe toutes. Et du coup, c'est compliqué. Hein. La ménopause c'est quoi? C'est aussi une redistribution des graisses entre 42 et 50 ans. La prise de poids moyenne, elle atteint 0,8 kg par an. Donc, quasiment un kilo. Elle peut grimper jusqu'à 1,5 kg par an à partir de 42 ans.
C'est énorme.
Et jusqu'à 50 ans. C'est quand même énorme et quasiment, alors pas toutes, mais quasiment toutes les femmes, ont le droit à ça. Un changement qui s'explique par la diminution des œstrogènes qui favorise l'accumulation de masse grasse, la perte musculaire également, mais aussi une baisse fréquente de l'activité physique. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit exercice tout simple. À partir de 42 ans, et je vais même vous mettre 2 ans en plus de sursis, à partir de 40 ans, c'est parti, il faut peut-être que je m'y mette. Un petit exercice qui va tout simplement tailler votre taille, tout simplement, et affiner votre taille.
Pour éviter que les kilos s'installent.
Exactement. L'exercice, quand je vous dis qu'il est simple, c'est qu'il est très très simple. Il y a 3 étapes de mouvement, ventre plat, proposé donc, pour le coup, par des professionnels. Et comment ça se passe? C'est très très simple. On se met, en gros, contre un mur, d'accord? Droit, contre un mur.
Fesses contre le mur.
Exactement. Il faut commencer debout, dos plaqué contre le mur. On entame donc un exercice par des déplacements horizontaux des épaules. De la
comme
gauche,
un ours sur l'arbre.
À droite.
Sur son
si
arbre.
Tu te grattais le dos au mur. Et effectivement, tout en gardant le bassin immobile. Et ça, c'est super important. On pousse d'abord l'épaule droite, puis on pousse l'épaule gauche et on garde le bassin immobile. Je peux t'assurer que cet exercice va travailler tes obliques et surtout va t'affiner la taille. Puis on poursuit en déplaçant le bassin à droite, puis à gauche, en veillant cette fois à garder les épaules immobiles. Donc en fait, on inverse, on va dire, l'exercice. La respiration est essentielle parce qu'elle permet de garder le rythme et surtout de continuer le mouvement comme tu devrais le faire pendant au moins 5 à 6 minutes. Tu fais ça tous les jours et on devrait bien s'en sortir.
Eh ben magnifique, on n'oublie pas ce petit exercice à la fin duquel vous irez taper dans la boîte de biscuits. On fait tous pareil, non, on ne va pas se mentir.
Non, là les gars, il faut faire... Faisons ça le matin, on a moins besoin de sucre le matin.
Ça, puis on a bien le temps le matin, effectivement.
Surtout nous.
Ce stéthoscope à retrouver.
Ouais, c'est pas grave, je prendrai mes 8 kilos jusqu'à 50, c'est pas très grave.
Le replay, radiolac.ch, retrouver toutes les infos et cet exercice, évidemment.
Le meilleur de Lac, en replay,
sur la nouvelle application Radiolac. Cryptoscope de Fabien et Carole.
Une étude britannique aujourd'hui qui s'intéresse à notre manière d'envisager nos intérieurs, c'est-à-dire nos maisons, nos appartements. Il y aurait 4 types de personnalités par rapport à, justement à l'organisation de notre chez-nous. Toi, Carole, ce qui est assez drôle, parce que quand je vois ton bureau, c'est un petit peu le bazar, il y en a un peu partout. Je crois que chez toi, c'est quand même très...
C'est nickel. Voilà. Il ne faut pas que ça dépasse. Rien ne dépasse, sauf dans la chambre de ma plus petite qui est clairement née bordélique. Ouais. Et j'ai décidé d'arrêter de lutter. Voilà, ouais. Donc généralement,
c'est une zone de non-droit.
Je ferme la porte, effectivement. L'autre est comme moi, plutôt très maniaque. Donc au final, tout est nickel. Ouais.
De quel type êtes-vous? Voici les 4 types d'intérieur qui en disent un peu plus sur votre personnalité. Le type A, c'est l'esthétique et la performance. Chez les personnalités de type A, chaque chose est à sa place et chaque pièce semble sortie d'un magazine. L'emplacement est quasi millimétré, les tons sont harmonieux et l'objectif est clair, impressionner tout en affirmant son goût pour l'excellence.
C'est ça, moi je pense être là-dedans parce que mon mari me dit souvent « Non mais c'est une maison témoin ici, stop voilà. !»
Alors moi je trouve que parfois ça peut manquer un petit peu de personnalité.
Peut-être. Voilà.
Mais c'est le goût
ça me
pour,
rassure
voilà, c'est le perfectionnisme et l'ambition qui se caractérise à travers finalement ces intérieurs. Bon, ce que pas spécialement ton cas, le perfectionnisme.
Mais dis donc, t'es pas très sympa avec moi.
Non mais si t'aimes bien faire les choses bien, mais
moi toute seule derrière une platine radio, je peux te dire un truc, je suis perfectionniste.
Ah mais c'est peut-être moi alors qui te déconcentre.
Ah mais alors, mais complètement, mais c'est simple, moi quand je suis avec toi.
Tu mets les pieds sous la table.
Tu me vois plus, exactement.
Le type B, le confort avant tout. Alors pour les personnes de type B, plus décontractées, elles privilégient la douceur de vivre à l'effet carte postale. Hein, donc ce qui compte, c'est le confort plutôt que finalement ce qu'on va montrer. Ici, c'est le canapé qui règne en maître, entouré de textures chaleureuses et de tons apaisants. Ça, c'est pour les personnalités de type B. Pas de grands discours décoratifs, mais quelque chose qui doit être une maison, qui doit être comme un refuge.
Okay.
Voilà. Les types C, c'est la maison méthodique. Le type C aime l'ordre, mais avec une finalité fonctionnelle. Pensée comme un outil d'efficacité, la maison est organisée, logique, souvent minimaliste. Moi, je te vois plus dans cette catégorie-là.
Peut-être.
Carole.
Peut-être.
Ouais. Chaque objet a une utilité et chaque mètre carré est optimisé. Moins porté sur l'émotion, plus sur la rationalité et la fonctionnalité des choses.
Donc ça se voit que t'as pas vu mon sanctuaire. Hein. Ce qu'appelle mon mari mon sanctuaire, c'est un endroit où il y a plein d'objets qui ne servent à rien, mais il appelle ça un sanctuaire.
Avec des petits bibelots, des choses comme ça.
Bibelots,
ouais, bon, c'est important
bougies,
aussi d'avoir sa petite pièce ou tout du moins sa petite armoire avec
son
petit jardin secret. Et enfin, pour les personnalités de type B, eh bien c'est l'instinct du cocon qui prime. Mm-hmm. Les personnalités de type D sont plus anxieuses ou réservées et ont besoin de créer un intérieur protecteur. On y retrouve souvent des matières enveloppantes, une lumière douce et des espaces qui invitent à la tranquillité.
Je te vois là-dedans, dans le D.
Ouais, alors moi je suis à mi-chemin entre le D peut-être et le côté confort, même si l'ordre évidemment est important.
Ouais.
Je pense que je vais prendre piocher un peu dans chaque
dans
personnalité. Et vous, alors quel type êtes-vous? Que dit votre intérieur de vous? Partagez tout ça avec nous sur le WhatsApp de Radiolac 079 91 8 3000.
Toute la nuit,
réécoutez vos émissions préférées sur Radio Lac. It's a
Du jour concerne un numéro de téléphone, Carole.
Ouais, un numéro de téléphone, parce que c'est vrai que les numéros de téléphone, eh bien, c'est compliqué à retenir. Et certains utilisateurs même le gardent pendant des années. Et ils sont même prêts à payer des frais supplémentaires pour le conserver en cas de changement d'opérateur. Hein, ça a été ton choix. T'as toujours eu le même numéro de téléphone ?
Non, j'ai changé quelques fois.
J'ai toujours eu le même numéro de téléphone.
Ça doit faire 10 ans, je crois, que j'ai le numéro de téléphone.
Alors moi, ça fait par exemple depuis l'âge de 15 ans que j'ai mon numéro de téléphone.
Incroyable.
J'ai 40 ans.
Ouais.
J'ai le même numéro de téléphone. Parce
le 079 662.
Non, déjà, t'es pas sur un... t'es déjà pas dedans. Mais quoi qu'il en soit, pour ceux qui ont mauvaise mémoire, il y a un numéro facile à retenir. Et ça, c'est tout bénef de l'avoir. C'est le 076 777 77 77.
Ah ouais, effectivement. Mais est-ce que c'est forcément une bonne chose d'avoir un numéro très facile à retenir ? Je me pose vraiment la question, parce qu'un numéro comme ça, par exemple, des enfants qui jouent, hop, ils font...
Mais les enfants qui jouent, forcément, leur pouce se déplace. Non, franchement, moi, je trouve que c'est le numéro extraordinaire.
Ouais.
En plus que des 7, hein,
oui,
chiffre porte-bonheur.
Non,
mais c'est génial. Eh bien, ce numéro, justement, il a été mis aux enchères et son prix initial était fixé à 10 francs. Et ce qui est assez incroyable, parce qu'il était sur la plateforme
Ricardo.
Que si tu voulais vraiment l'avoir et l'obtenir, eh bien, il fallait débourser 100 000 francs.
Ah oui.
100 000 balles.
C'est-à-dire qu'il y a deux possibilités d'achat sur Ricardo. Il y a les enchères, donc
c'est
là,
ça.
Elles sont en cours.
Ouais.
Et il y a l'achat direct, si tu veux être sûr d'avoir le lot, le produit. Et là, en l'occurrence, le numéro, eh bien, tu achètes directement au prix fixé par le vendeur. 100 000.
J'ai justement le résultat de ces enchères. On n'a pas eu à monter jusqu'à 100 000 balles.
Ouais.
Hein, et personne n'a fait de surenchère pour obtenir ce numéro très facile à retenir. Mais tout de même, hein, l'acquéreur a dû débourser 5 040 francs pour obtenir donc
quand même.
Ce
076 777 77
deux fois.
Ok,
voilà.
Bon, il y a déjà des fois les numéros un peu mémotechniques que l'on peut acheter auprès des opérateurs, notamment Swisscom. Moi, je trouve ça déjà très cher.
C'est cher, hein.
Là, payer plus de 5000 francs, effectivement, pour ce numéro de téléphone. Je dis oui, pourquoi pas, c'est facile. Mais si on pousse le vice un peu plus loin, ça aurait été encore mieux si au lieu de 0,76...
Il y avait un 0,77.
Bah voilà, tu vois, on aurait eu
aussi,
que des 7.
Tu n'as que des 7, tu es tout gagnant.
Voilà.
Mais là, pour avoir que des 7, c'est peut-être 200 000 balles qu'il va falloir débourser.
Peut-être.
Incroyable,
bon,
quand même.
Cas,
hein.
Voilà, des
c'est
enchères d'un nouveau genre, ça s'est passé sur la plateforme ricardo.ch.
Moi, je me dis que justement, si t'as des sous pour acheter ça, c'est que tu as trop de sous dans la vie.
Peut-être.
Donc tu peux m'en donner.
Mais je pourrais essayer, moi, de vendre ton numéro de téléphone aux enchères.
Ah bah, franchement, il est très très compliqué à retenir.
Mais je sais pas
mais
si ça intéresse quelqu'un.
Mais sachant que je l'ai retenu, eh bien ça fait donc depuis l'âge de 15 ans que je l'ai.
Bon, bah, c'est peut-être pour ça que t'as pas changé d'ailleurs.
C'est exactement
c'est pour
ça.
De pouvoir le retenir.
Je suis un petit peu Dory, ouais.
Le meilleur de Lac en replay
sur radiolac.ch. passer le meilleur des Noëls en jouant au Secret Santa Radio Lac. On vous offre votre platine vinyle,
des machines à café,
centrifugeuse,
votre radio DAB+ pour écouter Radio Lac,
et même un téléviseur.
Le Secret Santa Radio Lac.
C'est tous les jours, toute la journée, jusqu'à l'arrivée du Père Noël.
Joyeux Noël !
Joyeux Noël !
Avec Noël TV Maxi Discount, le professionnel de l'électroménager, son et images. Commandez les prix les plus bas de Suisse sur noeltv.ch.
Come to life.
Aujourd'hui qui nous emmène Carole en Estonie. Je crois qu'on n'est jamais allé en Estonie avec le stathoscope.
Je crois pas qu'on soit allé en Estonie avec le stathoscope.
Avec une université là-bas qui a mené une grande étude auprès de 59 000 personnes. Donc vraiment une très grande étude. 59 000 personnes qui exercent au total 263 métiers différents.
Ouais.
Et le but, pourquoi je vous parle de ces métiers ? Eh bien parce que cette étude avait pour but de déterminer quels sont les métiers les plus épanouissants selon la science, et puis à l'inverse, ceux qui ne le sont pas du tout. Quels sont pour toi les métiers qui semblent les plus épanouissants, Carole?
Animateur radio, c'est quand même très épanouissant.
C'est cool, hein. Ouais,
franchement, on a un super métier, on a vraiment beaucoup d'envie de venir tous les jours à notre travail. Donc franchement, c'est même pas un métier au final, hein. C'est une passion.
C'est ça, enfin, c'est un métier quand il s'agit quand même d'aller chercher le salaire.
On est d'accord, voilà. Oui, c'est vrai.
Il faut toujours le rappeler à notre boss. Eh, dis donc, patron,
dis donc,
c'est quand même d'un métier que je
on
fais.
On n'est pas bénévole, là.
Alors, quels sont ces métiers qui sont les plus épanouissants et, à contrario, ceux qui ne le sont pas du tout? Eh bien, les résultats de cette étude révèlent que les emplois les plus épanouissants ne sont pas forcément ceux auxquels on pense de prime abord. Alors, parmi les professions les mieux notées figure le clergé.
Le clergé.
Ah, j'étais très surpris de découvrir ça. Le clergé qui arrive en tête, finalement, des métiers les plus épanouissants. Bah, c'est peut-être le fait d'avoir un métier qui fait sens, quoi.
Chill, peut-être, oui. À la limite, où t'es pas stressé, etc., etc. Faire sens, oui, pourquoi pas. De toute façon, t'as un but hein, quand tu fais partie du clergé. Bah, mais
oui, puis il faut quand même rendre des comptes, au bon Dieu. Hein.
Épanouissant.
Ouais.
Bon, t'as pas le droit au sexe, quand même. Hein.
C'est vrai.
Enfin, ça dépend. Quelle position dans le clergé?
C'est oui.
On est d'accord.
Quelle
enfin,
position?
Je parle de positionnement.
Ah ouais, non.
Je parle de métier.
Après, je t'avouerai que dans l'étude, le sexe n'est pas vraiment entré en ligne de mire pour le.
Mais c'est pas épanouissant le sexe quand même.
Oui, mais peut-être pas au boulot.
Oui, mais le problème, c'est que dans ce boulot, tu peux pas.
C'est abstinence complète. C'est vrai.
Et c'est le problème.
On retrouve plus que le. En plus du clergé, il y a les professions médicales.
Ouais.
Voilà, qui sont les plus épanouissantes.
Okay.
Mais finalement, ce sont des métiers, des domaines qui sont tournés vers les autres.
Pourquoi ce sont des métiers chiants qu'on retrouve?
Mais parce que ce sont les plus épanouissants,
c'est
selon
ça.
Cette étude. Chiants peut-être pour nous, mais épanouissants pour les gens qui sont dans ces corps de métiers.
Je comprends, c'est épanouissant de soigner des gens, de les accompagner, de les guider aussi.
Bien sûr, c'est ça. Et ça donne du sens peut-être à son travail. Et le troisième domaine, c'est tout ce qui est lié à l'écriture. Et ça, j'avoue que je comprends.
Ouais.
Moi, chez moi, il y a un peu le mythe de l'écrivain. Déjà, tu bosses à la maison, tu bosses tranquille, tout seul, t'as pas de compte à rendre, si ce n'est à la page blanche qui est devant toi. Il faut écrire. Moi, je trouve qu'il y a un côté romanesque absolument dingue.
T'as aussi le syndrome de la page blanche, hein,
oui,
d'ailleurs.
Hein. Ce qui n'est pas très drôle.
Des auteurs, des personnes de temps en temps un peu torturées. Alors, je dis pas que tous les auteurs sont torturés, mais de temps en temps, il faut savoir se torturer un peu personnellement
pour
être inspiré.
Mais je comprends que ça soit un métier très épanouissant. À l'inverse, travailler en cuisine, dans les transports, en entrepôt ou dans le démarchage téléphonique ou la vente semble générer moins de satisfaction selon cette étude. Voilà, c'est assez surprenant parce que dans ces groupes de métiers, finalement, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Et lorsque l'on élargit la question à la satisfaction générale dans la vie et pas seulement en termes de carrière, eh bien, les professions médicales, les psychologues, les enseignants spécialisés, les travailleurs du métal ou les ingénieurs maritimes arrivent en tête des métiers où il y a le plus de satisfaction générale, hein, donc pas seulement en termes de carrière. À l'inverse, les agents de sécurité, les sondeurs, les serveurs, les vendeurs, les facteurs, les charpentiers ou les chimistes, eh bien, figurent en bas du classement.
Bah comme quoi. Hein.
Et surprenant quand même cette étude. Où est-ce que vous vous situez? Est-ce que vous êtes reconnu dans ces métiers, dans cette satisfaction ou non? Dites-le nous. Envoyez-nous un message WhatsApp 079 918 3000.
Le meilleur de Lac en replay
sur la nouvelle application Radio Lac.
If you fight in the good fight, don't give up. You fall to your knees, look up to the sky. If you fight in the good fight, don't give up. If you fall to your knees, look up to the sky. You'll see the light, see the light. You're not alone, so keep fighting the good fight. See the light. We'll be right back.
Sophie Gaillard sur Radio Lac. Eric va même sa science.
Eric Ashkar est là chaque semaine, le mercredi, c'est son rendez-vous, c'est son jour. Bonjour Eric.
Bonjour Sophie.
Pourquoi est-ce qu'il fait jour avant que le soleil se lève? Parce que ça, c'est la grande question qu'on vous pose. D'ailleurs, si vous avez des questions à poser à Eric, ça concerne l'astronomie, la science, vous m'envoyez un mail sophie@radiolac.ch. Alors, répondez, monsieur Ashkar.
Alors, pourquoi voit-on de la lumière avant que le soleil devienne visible?
Voilà.
La réponse est relativement simple. Au-dessus de notre tête, ou du moins tout ce que nous respirons, c'est l'atmosphère. C'est le gaz, c'est l'oxygène, enfin l'atmosphère. Alors, c'est un gaz. Or, un gaz, lorsqu'on l'éclaire, eh bien, il diffuse la lumière. Mmh. On se souvient de ces vieilles ampoules à néon.
Ouais, voilà.
Où on voit, elles sont cylindriques, et on voit la lumière émaner de toutes parts. C'est-à-dire que le gaz libère la lumière. Mmh. Eh bien, en fait, lorsque le soleil n'est pas visible pour quelqu'un qui se trouve à la surface de la Terre, la lumière va arriver sur la haute atmosphère et va l'éclairer. Et de ce fait, l'éclairage de l'atmosphère, c'est exactement comme un néon. Mmh. Le gaz va devenir lumineux. Et en fait, on voit la lumière, on voit l'aurore pour le matin et le crépuscule le soir. Si bien que même en l'absence de soleil, puisque la Terre a une atmosphère, cette atmosphère étant éclairée, nous donne pour nous, terriens, l'impression qu'il fait jour alors que nous ne voyons pas encore le soleil. Donc c'est un éclairage purement indirect, un peu comme si nous avions une lampe avec un réflecteur qui renvoie la lumière vers le sol. Or la lumière, l'ampoule, on ne la voit pas, elle est cachée par un cache. Mmh, elle va éclairer le réflecteur et le réflecteur va simplement renvoyer la lumière par effet indirect vers le sol. C'est le même principe.
Tout simplement.
Tout simplement.
Et ben voilà, vous saurez pourquoi on voit le jour bien avant que le soleil ne se lève. Voilà, c'était l'explication d'Eric Ashkar à retrouver sur la page Je peux pas, j'ai Radio Lac, sur radiolac.ch et votre site internet, vous pouvez nous le rappeler.
Cielétoilé.org.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Toute la nuit,
réécoutez vos émissions préférées sur Radio Lac.
Radio Lac, on on est bien au travail.
Mais oui, on est bien au travail, surtout sur Radio-là, quand on vous donne des conseils bien au travail avec Christian Auberçon cette semaine. Bonjour Christian.
Bonjour Sophie.
Vous êtes membre de l'asso HR Genève.
HR Genève.
Donc vous donnez des conseils aux salariés, évidemment, ceux qui nous écoutent, les directions, les patrons, les managers peuvent aussi écouter cette. Et les autres RH aussi peuvent écouter la chronique
qu'on trouve
en podcast sur radiolac.ch. Alors là, on s'intéresse aux certificats de travail et à un grand fantasme, les codes.
Oui.
Qu'est-ce que c'est ?
Alors, il y a les codes dans les certificats de travail, c'est un peu comme le monstre du Loch Ness, tout le monde en parle.
Mais personne ne le voit, jamais.
C'est un grand fantasme. Il faut peut-être faire juste un rappel historique, c'est qu'en fait, ça vient d'une pratique suisse il y a très très longtemps, où en fait, où les personnes changeaient très peu de travail.
Oui.
Et puis, une époque, la culture disait que si tu perdais ton travail, tu avais forcément fait une faute. Avec les mauvaises personnes qui perdaient leur job.
Bien sûr.
Donc, dans les certificats de travail qu'on remettait, on devait marquer si la personne avait bien travaillé ou pas bien travaillé.
Ah,
et
oui.
Puis, il y avait cette logique des codes, et celle vient aussi d'une autre logique, c'est que le droit, qui est toujours un peu schizophrène, disait qu'on ne doit pas mentir. Donc, quand on rédige un certificat de travail, on ne doit pas dire des mensonges, mais en même temps, on ne doit pas nuire à la personne.
D'accord.
Alors, évidemment, quand ça se passe bien, on ne ment pas en disant que ça se passe bien, mais quand ça s'est mal passé, on ne doit pas mentir, parce qu'on ne doit pas prendre le risque que quelqu'un engage cette personne. Et on lui a dit qu'elle était très bien, mais en même temps, on ne peut pas dire qu'elle n'était pas bien.
Ah, alors comment on fait ?
Alors, on travaille par omission.
D'accord, c'est-à-dire
donc, si tu t'es pas bien entendu avec tes collègues, on va pas marquer dans le certificat que tu t'entendais bien avec tes collègues. Si tu t'entendais bien, pas bien avec ta direction, on va pas marquer que tu t'entendais bien avec ta direction. Donc on va pas marquer les choses. Donc en fait, il faut plutôt chercher les omissions.
D'accord.
Et puis le seul vrai code qui existe dans les certificats de travail, c'est l'appréciation générale, qui va de rien à donner satisfaction, à donner toute satisfaction, à donner entière satisfaction, à donner pleine et entière satisfaction.
Mais si
ça, c'est de pire à très très bien.
Et s'il n'y a rien, ça veut dire que bon, vous n'étiez pas top top, quoi. Mais on peut pas
s'il
n'y
a rien, c'est soit que ce n'était pas top top, soit que les gens qui ont écrit le certificat ne connaissent pas le système, parce qu'on a quand même beaucoup de brassage depuis les dernières années. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui rédigent les certificats, qui ne savent pas le faire. Il y a même des applications et de l'IA qui fait les certificats.
Ah ouais, carrément.
Donc aujourd'hui, moi, ce que je conseille, c'est qu'il ne faut pas se baser que sur le certificat. Il faut quand même aller creuser un peu si on veut savoir ce qui s'est passé dans l'entreprise précédente.
Eh bien, merci beaucoup. Regardez votre certificat de travail. Et si vous trouvez des codes. Merci beaucoup. Beaucoup Christian Auberçon. Vous nous rappelez le site de l'asso
hr-genève.ch.
Merci beaucoup. C'était aussi à retrouver en podcast radiolac.ch, la page Je peux pas chez Radio-Lac. À la semaine prochaine.
Le meilleur de Lac en replay
sur radiolac.ch.
Le statoscope.
L'étude du jour aujourd'hui, on parle des relations amoureuses et notamment de ce moment terrible quand on se fait larguer.
Oh, tu sais ce qu'on dit, les histoires d'amour finissent mal en général. Bon, ça c'était Lerita Mitsuko qui le disait, il le disait très très bien, il le chantait très bien. Et c'est vrai qu'un coup sur deux, bah c'est vrai, malheureusement, c'est vrai. Qui ne s'est jamais fait larguer dans sa vie? C'est ton cas quand même, tu t'es déjà fait larguer.
Bah oui, mais je crois tout le monde.
Moi aussi, je me suis fait larguer, on s'est tous fait larguer. Tu sais quoi? Et ça, c'est vrai que le jour où nos parents nous le disent, bah, on a du mal à l'entendre quand on est jeune, hein, mais ça forge, ça fait l'expérience. Même si sur le moment, on souhaite ça à personne, ça fait mal, fait très très mal. Et pourtant, ça fait partie de la vie du couple. Eh bien, sache-le, il y a une étude qui est sortie. Il y a deux périodes dans l'année où vous avez le plus de chances de vous faire larguer.
Ah bon?
Ouais, d'accord. Deux périodes dans l'année. À ton avis, t'as une petite idée ou pas du tout?
Bah, je dirais peut-être le retour des vacances d'été. Donc, peut-être août, septembre.
Non, pas dedans du tout. Parmi les deux périodes.
Avant la Saint-Valentin.
Non, peu après, du coup. Tu sais, quand on dit en mai, fais ce qu'il te plaît, il faudrait ajouter, mais tu risques de te faire larguer.
Ah bon?
C'est le mois de mai. Le mois de mai serait plus enclin à voir, en fait, des couples se séparer. Hein, voilà, tout simplement. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est justement là où le printemps arrive, là où tout bourgeonne, là où le soleil en fait commence à être un petit peu plus longtemps avec nous. Et du coup, c'est une histoire d'été qui arrive, tout simplement. Selon les chercheurs, c'est le mois de mai et c'est aussi le mois de juin, tout avant l'été. Et forcément, c'est pas anodin. C'est parce qu'en fait, les gens ont envie de se débarrasser avant l'été, avant la saison des amours.
Ok.
Simplement.
Moi, je pensais qu'il y avait une histoire avant la Saint-Valentin, histoire de ne pas avoir à faire de cadeaux.
Non.
Au retour de vacances, parce que j'ai toujours entendu dire que le retour de vacances, c'était compliqué. Tu as passé beaucoup de temps avec ta moitié. Tu as peut-être découvert des aspects pas très sympas ou qui te font peut-être un petit peu fuir. Et là, hop, tu mets fin à la relation. Non.
Pas du tout. C'est plus des perspectives printanières, un peu plus dynamiques. Et du coup, ça donne envie à certaines personnes de reprendre leur liberté et d'aller papillonner, tout simplement. Okay.
Bon, on rappelle donc que c'est le mois de mai.
Mois de mai et mois de juin.
Et mois de juin, voilà, période terrible pour les couples. Ouais. Il faut passer le cap.
Exactement.
Hein, si vous souhaitez...
Toutes les années, c'est quand même compliqué.
Toutes les années, absolument. Vous souhaitez réagir, ça se passe sur le WhatsApp de Radio Lac 079-918-3000.
Le meilleur de Lac, en replay,
sur la nouvelle application Radio Lac. You not feeling peaceful anymore.
Ok les petits chamois, c'est Étienne Colly. Il paraît qu'il y a ceux qui montent là-haut pour la vue et ceux qui montent pour les cailloux. Moi je veux bien, mais je peux pas, j'ai Radio Lac.
Mais oui les petites marmottes, Étienne a raison, dans Je peux pas, j'ai Radio Lac, on parle de science, de seniors, de bien-être au travail, de loisirs sportifs et de Genève autrefois, sans oublier les humoristes de luxe, Kitry Zulot, Juliette Peuplier et Maxime Kitzinger.
De 16h à 20h.
Mais je peux pas, j'ai Radio Lac.
Radio Lac.
Time, the weather's fine. Smile on my face, the girl is mine. I'm happy, so happy. The ring in my pocket, I'm set to go. Marry the girl, cause I love her so. Happy, I'm happy. Just build a place called home and never be alone again, until the very end. So happy, I get to her door and I ring the bell. She won't believe what I had to tell her. I'm happy, so happy. Take a deep breath, I'm doing all I can. When I get on my knee, asking for her hand. Make me happy, oh so happy. Let's build a place called home and never be alone, you see. And now it's you and me. Maybe we'll end up getting gray and old, but we will never ever be alone. Maybe we could buy a great big house where all the kids could play and roam. So let's build that place called home and never be alone again until the very it, I can tell you how the story went. Happily she was in love with me until the very end. We built that place called home.